Je me souviens.
Vous écoutez Marie Radio, le podcast de Pierre Ménard.
Je me souviens de la jetée.
Roule la feuille, et nos amours, quoi qu'il m'en la joie venait toujours après la peine.
Présentation du dossier consacré à Hélène Bessett dans la revue littéraire publiée par les éditions Léo Cher, avec des textes de Mathieu Bénézet, Julien Doucineau, Céline Minard, Frédéric Léal et Nathalie Quintane. Présentation par Laure Limongi. Orchidée et salami. Un jour de printemps 1996, malgré la date et le bleu du ciel, il ne faisait pas très chaud sur les terrasses de la rue de la Harpe, quartier Saint-Michel. Pourtant, les Parisiens, les touristes, résistaient. Tasses, fourchettes en main, avides de premier soleil et d'air de vacances. Les étudiants surtout. Sorbonnard, cagneux livide, pour oublier un instant la claustrophobie des salles de cours, entendre deux glaçons teintés dans un verre. Entre deux frissons et pensées obsédantes, parasitant la conversation, j'aurais dû mettre une veste plus chaude. Un livre apparaît dans le champ de vision, flottant dans l'air, tournoyant comme dans une fête foraine avec son habit Gallimard jaune et rouge. Un livre avec une voix qui dit quand on le saisit, s'inquiète en couverture, n'avez-vous pas froid ? Heure des pages feuilletées, trouble. Et dans le saisissement d'une telle rencontre, plus qu'inattendue, Hélène Bessett apparaît, s'impose doucement, fermement. Lancinante, touchante, extravagante, exaspérante. Prend place à la table des discussions quotidiennes, si douce, si cruelle. Le bal des affects, l'échange des douleurs, les cris chuchotés, les pleurs aux éclats. Les rires étranglés, les espoirs et les défaites, la vie qui trébuche, se relève, s'écrit. Claude Royer-Journoux habitait alors au 31 de la rue de la Harpe, à la verticale de la table de bar glaciale, et possédait apparemment du fil de pêche dans son appartement, ainsi que la bonne dose d'imagination généreuse qu'on lui connaît toujours. 10 ans plus tard, grâce à la confiance et à l'enthousiasme de Léo Cher, la collection Lorly donne à lire un inédit d'Hélène Bessett, Le bonheur de la nuit, pour tenter de faire sortir de l'ombre une œuvre majeure, pourtant mystérieusement oubliée. 14 livres publiés en 20 ans aux éditions Gallimard, prix Caz en 1953, deux fois sur les listes du Goncourt et du Médicis, soutenu par de nombreux intellectuels, et une absence de visibilité totale comparée au succès grandissant des écrivains du nouveau roman. Hélène Bessett, Le bonheur de la nuit, pages 23 à 28. L'air ambiant est curieux, peut-être irrespirable, de la première à la dernière page. Du premier au dernier jour. La femme, ou là, plus ou moins mêlée d'Africains, jambes de gazelle, robe courte, frange, les « ça accroche » collés sur les joues. L'âge, sans âge. Ce genre de femme, 50% des femmes, reste sans âge de 23 à 40 ans. À part ça, assez gourde, quelconque. Des crises d'hystérie frénétique. Ce qui plaît à monsieur. Nata, Nathanaël diminué. Très diminué. Le papier, Bible, est effacé dans le passé. Maintenant, on en fait des cigarettes. La lettre, dit la femme, quelle lettre? On ne l'a pas reçue. Dit la lettre, tu l'as reçue? Où est-ce que tu l'as mise? Le téléphone? Coupé, c'était pas nous. Ça n'a jamais sonné. Dit, c'est toi qui as répondu au téléphone? C'était quand? Donc l'hystérie plaît. À monsieur. À monsieur Nata. Laissez tomber Naël. Chaque minute de vie s'écoule, s'écroule, à la recherche, entreprise des recherches, des grandes recherches, d'un monde à l'autre. Recherche des sensations plus défendues, interdites, étrangères, inconnues. Un peu de neuf dans la sensation, s'il vous plaît. Réprouvé, répréhensible, sanctionné, inavouable, scandaleuse. Avant tout, le scandale. Il va y avoir un scandale, un beau petit scandale. Je suis habitué au scandale, répond-il. Répond Nata, répond Toto, chef de bande, celui qui domine, qui en a un peu plus que les autres, qui sait ce qu'il fait. Voilà le problème modifié. Personnage conscient, fou conscient, groupe clos, bien enfermé, avec chef, responsable. Attention, faites attention de qui vous parlez. Monsieur Nathanaël, portrait, style empire, cadre désuet, ovale, doré, fané. Ne pas laisser tomber Naël. Mes hommages respectueux. Il s'agit de quelqu'un d'honorablement connu. Au patronyme archaïsant. Monsieur Nathanaël. Je suis habitué au scandale, dit-il doucement, tendrement. Enfin, le scandale. Il met tout en œuvre pour le scandale. Jubilation profonde. Moment délectable. Monsieur non traumatisé par la crise d'hystérie. Quel spectacle, disent les invités, l'air dégoûté. Quel spectacle, dit le personnel, sévère et réprobateur. Enfin, tout de même, comme ça, devant tout le monde. À l'heure du déjeuner, ce que c'est déplaisant. Crise. C'est une femme comme ça. Une femme à crise. Pas contente, murmure monsieur. Pas contente du tout. Ronronne Nata de Nathanaël. Amoureux soudain. Malgré la rupture proche. Je divorce. Voix décuplée, rauque, fulminante, à cause de la crise. Si tu veux, répondit-il froidement. Froidement, d'une voix sèche et lointaine. Car lui n'est pas en crise. Lui, bien entendu, ignore les crises, il n'en a pas. Donc, le scandale est proche. Le scandale de la rupture. Consternation générale. Les invités, les domestiques, la famille. Ainsi, ils vont rompre. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît à personne. On n'admet pas la rupture, la séparation des destinées, les nœuds dénoués, la liberté des vies. Puis tout le monde parle à voix basse. Les invités mêlés aux domestiques. C'est la République. Mécontents, ils le font savoir. Oh ben, il la trompe. Oh ben, elle a un ami. Scandale. Plusieurs. Un par jour, par heure. Monsieur pourtant encore amoureux. Amoureux de madame. Malgré le drame latent. Très excitante, sa femme en crise. Et ils aiment ça. Pas contente. Pas contente du tout, dit-il très froid, voix lente et atténuée. Avec cette froideur qui accompagne le plaisir inavoué, dissimulé, caché. Très froid. Excitante madame. Tandis que la jupe exiguë virevolte, autour du sexe, auréolée de verre. Car elle tape du pied, claque les portes, crie, hurle. Tout est à la mode, le verre, le sexe, et son alliance de tissu Roville. Les disputes, les hurlements, et les plaisirs cachés. La mode, ce matin, dans Octobre roussi, lumineux. Monsieur, tant soit peu, lave les vitres de son château. On ne sait pourquoi, tout le monde se le demande. Les domestiques d'abord. Il ne fout jamais rien. la raison reste obscure. De cette intempestive activité, furie bénévole, pour le soleil éclatant dans l'eau des verroteries biseautées. Ou bien, il attend l'actrice. Et l'attend de loin, et de haut. Du haut du simili-château, du simili-amour, de la simili-femme. Postface au bonheur de la nuit d'Hélène Bessette par Bernard Noël. Le plus que présent. L'avenir se lève parfois derrière nous, à contresens du sens du temps, comme si nous avait précédé une vie ensevelie. Ce phénomène est rare. Il suppose qu'un présent a conservé sa qualité, bien qu'il appartienne au passé. On pourrait dire cela de tout ce qui dure, mais il ne s'agit justement pas de durée, ce dont il va être question, n'ayant pas accédé. C'est tout à coup une déchirure qui révèle une bulle de jeunesse demeurée intacte, tandis que le temps passait autour d'elle. Cependant, à mesure que devient saisissante cette révélation, un sentiment de violente injustice s'impose ici, parce que l'œuvre, en train d'apparaître, est désormais signée du nom d'un auteur, dont la mort a récemment fait un disparu. Un silence qui n'a cessé de choquer aussi bien Raymond Queneau, parlant d'elle comme d'un écrivain maudit à André Malraux, que Marguerite Duras, tentant d'expliquer ainsi son insuccès. L'insuccès, à mon avis, n'existe pas. Le succès peut être tardif, mais il doit arriver, tôt ou tard. Je ne pense pas que ce soit la critique qui soit responsable, en premier lieu, de ce que j'appelle l'insuccès momentané d'une œuvre. Je crois que l'insuccès d'une œuvre découle de l'œuvre elle-même. Enfin, c'est une qualité intrinsèque de l'œuvre. Quand une œuvre est seule à être elle-même, quand une œuvre est insolite, il est normal qu'elle ne frappe que certains initiés tout d'abord. Un livre ne paraît jamais seul. Il est toujours accompagné d'autres livres, il est toujours dans un contexte donné. Il se peut très bien qu'un livre très singulier, très insolite, soit contrecarré par d'autres livres. Sans chercher à démêler les chevaux complexes des raisons expliquant cet étrange oubli de l'histoire littéraire, on rappellera simplement qu'Hélène Bessette était une femme d'origine modeste, divorcée, isolée, une institutrice affichant son désintérêt pour son gagne-pain, ayant toujours connu la pauvreté, la succession grise de petites villes de province peu accueillantes, si on excepte sa période calédonienne et ses quelques voyages à l'étranger, et dotée d'un solide caractère sans doute un brin pénible. Bref, loin de l'écrivain rentier, entouré, soutenu, consensuel, manageant le plan de communication efficace qui est l'œuvre de sa vie. Que son livre, Les Petites Lecoq, celui qui avait été pensé comme un succès et qui a bien failli en être un, a été interdit pour diffamation et outrage aux bonnes mœurs grâce à une brillante plaidoirie de Roland Dumas. C'était pas de veine. Et surtout qu'Hélène Bessette a écrit l'une des œuvres les plus originales, acides, déstabilisantes de ce temps, ce qui met toujours vraisemblablement un peu de temps à être, si ce n'est accepté, du moins simplement vu et connu. Elle était d'ailleurs elle-même persuadée qu'on ne parlerait d'elle que 30 ans après sa mort, nous apprennent ses fils. Le bonheur de la nuit, Hélène Bessette, pages 82 à 89. Le vent tourne, tout à coup. Décapotable enforté. On rentre. Avec robe du dimanche, lourd anneau d'or serti de diamants, gerbe de fleurs, pour de grandes et discrètes fiançailles. Il s'agit toujours de la marquise Doudou, nota bene, tout à fait belle. La robe, la bague, les fleurs, la voiture et l'amour. La robe, la bague, les fleurs, la voiture et sans la robe, sans la bague, sans les fleurs, sans la voiture, sans... C'est sérieux, il va l'épouser. Mais oui, je t'épouse, crie Nata. Ouvre grand les bras où madame se réfugie, se blottit, se pelotonne, éclate d'un rire perlé. Histoire d'un grand monsieur qui épouse sa prostituée. Très bien porté, un tantinet snob, plus fréquent qu'on ne le pense. Monsieur sauve une âme, grand genre, joue les Pygmalions, ce que se rapportent les vieilles filles desséchées, à l'heure du thé. Et il l'a épousée. Fin. Roman rose qui les ravit. D'autant plus qu'elles n'ont pas été épousées. Vieille garce refoulée. Roman décadent, simili vicieux. Le descendant des Nathanaël, révolutionnaire soudain. Épouse et habille la femme de mauvaise vie. Plus les bijoux. C'est un saint, dit quelqu'un. Le pasteur sera heureux de bénir le mariage. Les fleurs des fiançailles se sont fanées. Personne n'a changé l'eau des vases. Les pétales tristes se dispersent au vent. Monsieur pensif, light, une blanche cigarette. Doudou, maîtresse des lieux, occupe la place. Elle en subira encore beaucoup avant de se résoudre à l'échec. S'y résoudra difficilement. Lucide, froide, calculatrice. Des hommes, il y en a beaucoup. L'un d'eux, une fois, possède un peu plus. L'argent. Naïve marquise, ignorante de la rencontre qui lèverait au-dessus de l'instinct et de l'argent. Naïve doudou. Ça, on peut le faire avec 50% des hommes. Justement, Nata y pensait hier soir. Naïf marquis. Ça, on peut le faire avec 50% des marquises. Monsieur possède une réserve de jeux d'hiver, par lesquels ce fameux amour rarissime est mis à la portée de tous et de toutes. Principe d'économie de la société de consommation. Tristan et Iseult, évanouis dans l'espace. Visages évaporés dans la nuit des temps. Le couple de papier journal. Fabrication méthodique, en série. N'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Rencontres au pluriel. Jamais seul. Duo obligé, obligatoire, toujours deux. L'humanité rangée deux par deux pour un paradis empli de monoprix. Petit Tristan et petit Iseult, en milliers d'exemplaires. Et sans éternité. Et le critère ? Crie quelqu'un ? Personne ne répond. Personne n'a envie de discuter sur le critère de l'amour en 1970. Il repose à la BNP. À « Dieu est mon appui du chapiteau », monsieur fait ajouter, ainsi que la BNP. Nouveau principe du choix des grandes amours. Pas si nouveau. Choix de doudou. En vertu du principe fort, de l'argent. Réversible et réciproque. Choix de Nata. En vertu de ce même principe. Non révolutionnaire, sans révolution possible. Il n'y aura pas de révolution. De révolution sentimentale. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment vit-il ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Que gagnerez-vous au mois ? Et avez-vous de l'argent de côté ? Première parole d'amour. Puis, il voit en rêve le coffre-fort. Le coffre-fort de Doudou. Largement ouvert et vide. C'est donc un cauchemar. Le choix fait, quels que soient les aléas. Doudou s'y tient, fermement, avec une sérénité de sainte. C'est une femme qui reste, Doudou. La voici de profil, cheveux crêpés, sous les mèches brillantes, pour accentuer l'occiput. Nécessité fait loi. Intelligence fragile, quelques cheveux crêpés, coiffure gonflante. La marquise est gonflée. Intelligence pâle, achetée chez le coiffeur. Ah, Dieu ne plaise. Tout le monde approuve, y compris le pasteur, aux idées larges. il ne va pas sanctionner mais bénir. Le mot plaisir, voisin du mot bonheur. D'évaluation trompeuse. Chacun s'y méprend. Ces dames aimées aux capacités nocturnes cinématographiques. Violence et désarroi. La nouvelle marquise Nata de Nathanaël. Nerveuse, neurotique. C'est une femme très sérieuse, assure le visage clos de la lingère fidèle à son patron dans l'adversité. Peut-être tatillon. Elle partait au cimetière, jusqu'à un certain point. D'un magnétisme capricieux. La voici en fraternité d'épaule avec le baronnet, à la recherche du carnet de chèques égaré dans le placard. Justement, recherche passionnée pour tout le monde. Regard menaçant du jeune homme jaune. Le fiancé de son côté, préoccupé, par la star en vacances. Le silence aveugle recouvre à nouveau personnes et choses. Bribes de conversation, mots épars, dispersés, paroles dans le vent, emportées, tournoyantes, à travers l'épais brouillard déchiré. Cette brume longue, étendue entre les uns et les autres. Des idées de voyage comme des bruits d'ailes. Frôlement des pensées imaginaires, entremêlées, chacun propriétaire de l'autre, de la vie de l'autre, sur des suppositions rêvées. Propriétaire de celui qui passe, qu'on a croisé. Propriétaire de l'étrange étranger. Monsieur à la fois sévère, sérieux, inquiet peut-être, pris au jeu. Mieux, angoissé. L'angoisse de l'erreur. La soubrette murmure, il hésite, il sait pas quoi faire. Monsieur, et la liberté du choix? A-t-il une liberté? A-t-il une volonté? Une possibilité d'hésiter? Entre deux attitudes, deux situations, deux femmes, deux amours. Éclairage douceâtre, avec lampe familiale, Big T, scotch. Mobilier genre antiquaire, musée Louise Cognac, Ernest J. Une série de commodes Louis XVI et meubles boules. Altercation, doudou et une demi-comtesse. Doudou allergique aux dames. Une affiche venue d'une main discrète tient au carreau. Les marquis seuls sont admis, signé la marquise. Les oncles et tantes n'ont consulté sur l'emploi de l'héritage. Tandis qu'une voix perdue en coulisses s'éclame. Elle finira sur les planches. Il s'agit de Chéri. Et du pasteur philosophe, très kafconce à 16h. Au moment où l'on ne peut plus trouver un seul de ses livres en librairie, Hélène Bessette suscite enfin l'intérêt de lecteurs passionnés avec un peu d'avance sur ses prédictions. Voici donc le premier épisode de la réapparition de Fifi Bess la romancière, Le bonheur de la nuit et ce dossier d'écrivain dans la revue littéraire.